Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On arrête de pas d'en enchaîner, mais on va le dire, le redire, on va continuer à le présenter de cette manière. Notre air, notre qualité d'air, notre réflexe de respirer doit être absolument préservé. Et comme depuis quelques années maintenant, on s'aperçoit qu'on améliore notre qualité de l'air extérieur sur pas mal de sujets, sur pas mal de plans. On aura l'occasion d'en discuter plus en avant dans l'émission, avec une grande émission spéciale qui se prépare. Mais par contre, il est évident qu'on va tous continuer à faire mieux. Et c'est bien le principe de l'émission que de se renseigner, de s'informer, d'avoir, je dirais, nos yeux, nos oreilles, nos poumons grands ouverts pour aller évidemment trouver du meilleur, des solutions ou quelque chose du bon, ou quelquefois du bon sens qui existe pour continuer à bien faire. Et d'ailleurs, sur cette première, je dirais, partie de l'émission, petit coup de téléphone que j'ai reçu ce matin d'une personne qui s'inquiétait de la qualité de l'air dans une crèche. Et qui se disait que chez elle, elle pouvait retranscrire ce qui se passait dans cette crèche où il y a eu une belle initiative où ils ont commandé des capteurs et également des appareils pour épurer l'air. Alors justement, dans cette prise en compte, le petit conseil qu'on peut donner à cette personne, c'était, mais tout d'abord, assurez-vous dans la nouvelle maison dans laquelle vous allez arriver que votre ventilation, que vos systèmes d'aération et de ventilation fonctionnent. C'est d'abord cette condition qui doit être la première et après, vous allez pouvoir affiner et voir mieux ce qui se passe dans votre maison par justement affiner cette prise en compte. Sur ce plan-là, elle a bien pris conscience. Elle va arriver dans sa maison, elle va surveiller ses débits d'air, faire venir pourquoi pas un diagnostiqueur pour s'apercevoir que ça fonctionne bien, puisque la nouvelle réglementation environnementale 2020 l'impose maintenant dans les bâtiments neufs. Mais pourquoi pas, tout un chacun, ça coûte moins cher de faire un diagnostic que acheter des épurateurs ou alors s'assurer par des capteurs. Dans un premier temps, bien évidemment, on va aller vers du bon sens. Sachez que aérer et ventiler, c'est le premier des points qui vous coûte pas très cher à faire. Et après, on pourra aller beaucoup plus loin. Mais déjà, 95% de la réussite, elle est dans cette prise en compte. Alors, pour cette prise en compte, on a aussi un autre point sur lequel on peut parler. On pourrait parler d'un paradoxe. Un paradoxe à l'heure actuelle où on parle de carbone, on parle de limiter nos émissions de carbone, qu'on retrouve dans l'air, bien évidemment. Et ce paradoxe, il est lié... Je parlais il y a quelques instants sur la réglementation environnementale 2020. Ce paradoxe carbone, il est lié en fin de compte à des réglementations qu'on pourrait dire parallèles ou associées. Je m'explique. On sait que maintenant, pour toute construction, on doit aller dans l'immobilier, construction neuve, faire des études de sol pour vérifier que ce sol va résister dans le temps, va avoir une assise suffisamment confortable pour que le bâtiment ne se fissure pas. C'est de nombreux dommages à l'heure actuelle que l'on peut constater, les assureurs le constatent bien notamment. Et sur cette réglementation, on demande des études géotechniques en G1 PGC ou en G2 Pro, où on va s'assurer que le bâtiment va bien tenir sur le terrain. Alors, pour que ça tienne bien sur le terrain, il faut savoir que maintenant, on voit arriver des fondations beaucoup plus conséquente. On avait avant une moyenne de fondation sur certaines régions pour autour de 80 cm de fondation. Maintenant, on passe à 1,20 m. Et ce 1,20 m n'est pas anodin parce que on va utiliser du béton, et notamment du béton qui peut aller jusqu'à 30 mètres cubes supplémentaires. Et on sait que 1 mètre cube de béton, c'est quasiment 900 kg de CO2 émis. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir une double réflexion. C'est sûr, on va renforcer nos habitations, mais il va falloir le faire de la bonne manière parce que là, ça consomme quand même pas mal de carbone. Alors, sur ces produits, sur ces matériaux, c'est un petit peu là où je veux en venir. Comment on peut savoir que nos produits sont émetteurs de tel ou tel polluant, émetteurs de tel ou tel, problématiques qui peuvent nuire à notre santé sur un laps de temps court ou beaucoup plus long. Et pour parler de cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Santamaria. Bonjour Fabrice.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Et à tous.
Comment allez-vous? Ce début d'année se passe bien?
Très bien, je respire très bien, donc tout va bien.
Bon, alors justement pour bien respirer, j'adore ce que vous avez écrit derrière vous. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'ils ne nous prennent par la gorge, disait Winston Churchill. Il y a beaucoup de bon sens dans ces phrases, bien souvent, à Winston Churchill. Celle-ci, évidemment, comment prendre par la main, nos bonnes actions sur ce plan de connaître, on va dire, le potentiel émissif des matériaux qu'on va utiliser seuls ou les uns avec les autres. On vous écoute, Fabrice. Et puis, présentez-vous.
Eh bien, me présenter, c'est assez rapide. Je travaille pour la société Unicalo, qui est un fabricant de peinture pour le bâtiment, de peinture éco-sourcée. Ma mission, c'est 4 thèmes essentiellement, veiller, développer, et représenter l'entreprise dans des événements particuliers, comme je le fais là aujourd'hui, par exemple, ou ailleurs, dans des journées techniques, etc. Et puis faciliter à l'accès à l'information, faciliter également la possibilité à chacun d'entrer en réseau, puisque une de nos problématiques dans le bâtiment, et tu le sais Nicolas, c'est ce fonctionnement en silo qu'il va falloir réussir à écraser effectivement pour passer en plus de transversalité.
On ne fera rien sans être les uns avec les autres. Ça, il faut bien le considérer. Chaque élément qui est composé dans nos bâtiments, dans nos habitats, en rénovation comme en neuf, sont un système, un élément d'un système. C'est comme un tapis, un joli tapis persan avec tout un tas de couleurs et de manières de le concevoir qui fait une belle image. Cette belle image, chaque point est important pour la composer.
C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, nous devons de regarder les choses de façon écosystémique. On ne peut plus prendre petit bout par petit bout et se dire on a fait ce qu'il fallait. Non, aujourd'hui, nous devons de regarder les choses ensemble, main dans la main, et de pouvoir le faire ensemble. D'ailleurs, je lisais ce matin quelque chose qui va dans le sens de tout ce qu'on va se dire un peu aujourd'hui. Je lisais les scénarios que l'ADEME a pu travailler pour notre société à l'horizon 2050. Et on se rend bien compte en lisant ces différents scénarios, soit quelque chose de frugal, soit de la coopération territoriale, soit des technologies vertes qui seront utilisées à outrance, soit éventuellement faire le pari de laisser traîner les choses pour venir finalement les réparer. On s'aperçoit d'une chose, c'est que si deux scénarios sortent comme étant ceux vers lesquels on a l'air de s'orienter, c'est-à-dire une coopération territoriale et l'usage de technologies vertes, eh bien, quoi qu'il arrive, dans les 4 scénarios, on devra travailler main dans la main. Et la qualité de l'air, pour le coup, en fait énormément partie. Vous avez cité tout à l'heure, Nicolas, la RE 2020, qui est une réglementation environnementale. C'est-à-dire qu'on ne se contentera plus aujourd'hui dans le neuf de s'attacher uniquement à la thermique et en particulier au confort d'hiver. On va s'attacher aussi au confort d'été. Tout ça va engendrer des tas de choses sur la qualité de l'air, mais tout ça engendre déjà énormément d'éléments à prendre en compte dans la façon de construire. Et une des bonnes façons d'essayer d'anticiper sur l'impact environnemental que nous pouvons avoir dans nos constructions ou dans nos rénovations d'ailleurs, c'est de s'intéresser au FDES.
C'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? On utilise des syllogismes un peu sur tout. FDES, allez, on démarre. C'est une fiche, mais laquelle ?
C'est la fiche de données environnementales et sanitaires. D'accord. Et cette fiche de données environnementales,
ça nous parle à Radio Imo et bien entendu dans le cadre d'élémentaire.
Je m'en doute. On vient et tu l'as dit, on est dans une grosse phase de décarbonation avec aujourd'hui des textes qui sont des textes de réglementation qui sont en place, dont la RE 2020 entre autres. Mais je crois qu'on rentre dans un cycle un peu plus long qui démarre à peine maintenant et où on va parler pendant pas mal d'années de santé environnementale. Et dans cette santé environnementale, eh bien, il y a notre capacité à respirer et à respirer un air pur. Voilà, le plus pur possible. Donc, la FDES est un des outils, justement, qui peut servir à ça, puisque, en fait, c'est un outil qui est issu de la volonté d'un industriel, d'un promoteur, d'un constructeur, d'un organisme X ou Y, de cette volonté de pouvoir analyser le cycle de vie de ses produits, de ses services, de ses bâtiments, pour pouvoir maîtriser et déjà, au départ, s'interroger sur l'impact environnemental de ce metteur en marché.
Alors, justement, cet impact, on le mesure de quand à quand ? Est-ce qu'on le prend sur une petite partie de sa vie ou est-ce qu'on va vraiment considérer la vie en globalité de ce produit, de ce qu'on appelle du berceau jusqu'au tombeau ?
Eh bien, voilà une des questions. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit une FDES, lorsque le metteur en marché écrit une FDES, il écrit quelque chose qui va être contrôlé par une gouvernance, hein, à ce niveau-là, à l'AFNOR, etc., etc. Mais il écrit quelque chose qui participe de ses propres scénarios. C'est-à-dire que on peut très bien choisir de ne calculer son impact environnemental que de l'arrivage de ses matières premières pour fabriquer jusqu'à la sortie de son usine. On peut le faire jusqu'à la livraison chez ses clients. Mais on peut aussi le faire du berceau jusqu'à la tombe, c'est-à-dire sur un cycle complet. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on en sera à comparer effectivement des FDES, il faut déjà, à la base, qu'on compare des scénarios identiques parce que les indicateurs et les indices qui sont donnés dans la FDES ne vont plus du tout être les mêmes en fonction du scénario.
Donc, ce
Alors,
qui veut dire qu'à l'heure actuelle, un utilisateur doit être extrêmement vigilant, parce que vous êtes en train de, tu es en train de nous dire, Fabrice, que attention, on ne compare pas toujours ce qui est comparable.
exactement, on ne compare pas toujours ce qui est comparable. Je peux donner un autre exemple. Déjà, il faut qu'on arrive à faire la partition entre ce qui est une FDES et ce qui peut être des écolabels. Un produit peut avoir un écolabel et pas d'FDES, ou l'inverse, ou les deux en même temps. Pour faire une FDES, il faut faire ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, des ACV. Il ne faut pas confondre une ACV et un écolabel. Un écolabel a un référentiel et a un objectif, c'est, comment dire, hiérarchiser quelque part les meilleurs produits, les meilleurs services, etc. En partant sur ce référentiel. Mais le référentiel des écolabels ne fait jamais cas de l'ensemble des critères qui composent une FDES, donc de l'ensemble des critères qui composent une analyse de cycle de vie. Et donc il ne faut pas confondre ces éléments. Ce n'est pas parce qu'un produit a un écolabel que l'analyse de
Qu'automatiquement, il
cycle
est
de vie a.
complètement vertueux.
Exactement,
Bien
exactement. J'ai
entendu.
un
Très
exemple comme
intéressant.
ça, j'ai un exemple qui est assez facile à comprendre. Sur les peintures, entre autres, vous avez aujourd'hui la possibilité, chers auditeurs et chères auditrices, de voir effectivement le fameux A+. Savez-vous que le A+, c'est une mesure à 28 jours? C'est-à-dire que potentiellement, une peinture, quand elle est sur le marché, elle est étalée sur un mur, mais elle va pouvoir rejeter des composés organiques volatiles. Pour arriver au stade du A+, c'est-à-dire moins de 30 grammes de COV par litre, elle va pouvoir rejeter des composés organiques
C'est
volatiles à
composé
bien plus
organique
de.
volatile. Il faut le préciser. Excusez-moi, Fabrice, mais
Composés
le...
organiques volatiles, c'est en
Ouais.
fait ce qui va, avec le séchage de la peinture, s'échapper, qui est très volatile donc, et qui s'échappe dans l'air. Donc, qui potentiellement peut venir effectivement gâter, hein, dégrader la qualité de l'air. Donc, une peinture, elle peut, avant d'arriver à son score A+, c'est-à-dire à moins de 30 grammes de composés organiques volatiles par litre, elle peut effectivement dégager beaucoup plus que 30 grammes pendant 28 jours. L'essentiel, c'est qu'elle soit à moins de 30 grammes au bout de 28 jours pour être A+. Donc, vous avez des solutions aujourd'hui sur le marché qui sont effectivement des solutions sur lesquelles on est A+ dans le pot. C'est-à-dire que la peinture n'est toujours pas étalée, elle est toujours à l'état de liquide, elle n'est pas sèche et elle est déjà A+. Et ça, c'est important. Et pour le savoir, il faut aller chercher effectivement les informations dans la fiche de données environnementales et sanitaires parce
Alors
qu'on va
justement,
plus loin avec
Fabrice,
l'analyse de cycle
permettez-moi
de
de vous
vie.
couper. Fabrice, permettez-moi de te couper, pardon. C'est la deuxième fois que tu viens dans l'émission. Justement, ces fiches, ces FDES, alors au niveau professionnel, on sait où aller les chercher, mais pour tout un chacun qui nous écoute, ou peut-être un petit peu plus sur le monde de l'immobilier pur, où de plus en plus on voit, et sur la rénovation, et sur les ventes immobilières, puisqu'elles sont en train de croître, hein,
Bien sûr,
avec, on le
bien
voit
sûr.
bien avec le confinement, et ce que ça a engendré derrière. On va les chercher où ces fiches? Comment faire pour être plus éclairé, justement?
Alors, ces fiches, on va les chercher parce qu'elles encadrent les allégations environnementales d'un industriel, etc. Donc, ces fiches, on va les chercher sur la base INIES. C'est très facile, elles sont consultables gratuitement par tout le monde, www.inies.fr. Et on va aller chercher à comprendre dès le départ comment fonctionne une FDES. Alors, comment ça fonctionne? Nicolas, si je peux me permettre, deux ou trois points qui sont en rapport effectivement avec la qualité de l'air. D'abord, il faut essayer de comprendre l'unité fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on est sur un produit, quel qu'il soit, on doit déterminer déjà d'entrée de jeu la géographie et la quantification des produits qui arrivent de par le monde. Et une unité fonctionnelle, c'est quoi ? Pour la peinture, par exemple, c'est 1 mètre carré revêtu par une peinture ou un système, c'est-à-dire une impression et une ou deux couches de finition. Et ça, c'est très important parce que, encore une fois, si je reviens à une comparaison entre deux FDES, il faut savoir une chose, c'est qu'on a l'obligation, dans la norme, on a l'obligation de, la norme c'est la NFEN 15804, on a l'obligation d'indiquer le pire des cas. Donc quand on compare une unité fonctionnelle, on va comparer notamment ce qui peut être le rendement d'une peinture, entre autres. Moi, je vends de la peinture, une peinture. Quelle peut être la densité ? Mais quelqu'un qui déclare dans son scénario deux couches au lieu de trois, quelqu'un qui déclare dans son scénario une moindre valeur en termes de quantité appliquée sur le mur, tout ça va impacter tous les indices. Et ça impacte en premier l'indice de réchauffement climatique. L'indice de réchauffement climatique, c'est exprimé en kilos équivalent carbone en fonction de cette unité fonctionnelle. Donc, si l'unité fonctionnelle, le scénario est faux au départ, forcément, l'indice de réchauffement climatique est faux.
Alors, justement, donc, d'où le bon calibrage. Et est-ce que, quelque part, on demande à ce que soient bien respectés ces indices, en fin de compte, d'utilisation surfacique, puisque est-ce qu'on ne devrait pas avoir plutôt de la comparaison qui se dit, bah, on va comparer vraiment pour deux couches appliquées, les uns avec les autres, ça donne quoi ? Et peut-être amener quelque chose, peut-être que plus dans la réalité, à trois couches, selon ce qu'on va trouver, puisqu'on vante le pouvoir couvrant, notamment des peintures, mais est-ce que ce pouvoir couvrant, bah, on ne s'en sert pas, quelquefois, je dirais de manière marketing, hein, pour le dire, pour faire passer des choses, alors qu'il faut rester extrêmement vigilant.
Exactement, il faut rester extrêmement vigilant. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas taper sur les doigts du certificateur ou de la personne qui va vérifier parce qu'il est agréé par l'AFNOR et lui, il fait en fonction des informations qui lui sont données. En fait, il n'y a pas d'obligation. Si on devait en avoir une d'obligation, ce serait de regarder ce qui se passe réellement au niveau des règles de construction, c'est-à-dire du DTU. Et le DTU, en fonction de la finition qui est choisie sur un CCTP sur un cahier des charges, eh bien le DTU, il vous dit s'il faut deux passes, trois passes de peinture, par exemple, une impression ou pas. Donc, en fait, c'est là où vraiment on doit adapter, effectivement, on doit adapter sa lecture de son cahier des charges à la lecture des fiches de données environnementales et sanitaires. Si on donne, si on reçoit et si on conçoit un marché, par exemple, ou une donnée juste en fonction de la donnée brute qu'il y a dans la FDES, eh bien, on fait effectivement une erreur.
Alors justement, pour terminer, parce qu'on arrive au bout de l'émission, hein, c'est extrêmement intéressant. Donc cette base INIES, hein, www.inies.fr, tout à chacun, n'hésitez pas à y faire un tour sur le produit que vous avez choisi ou le système que vous voulez mettre en œuvre, hein, puisqu'il va y avoir également tous les impacts. Et puis, n'hésitez pas à creuser un petit peu pour bien, je dirais, faire la différence entre un système et un autre, un produit et un autre. Fabrice.
Rapprochez-vous des fabricants, ils savent faire, ils savent vous dire les informations.
Voilà, et se rapprocher de l'industriel, ça va être de quelle manière ? C'est par le biais de l'affiche ?
Tout simplement. Oui, par le biais de l'affiche, et puis appelez votre prescripteur local, votre force de vente. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça d'ailleurs.
Ah, donc toutes les agences, bah, en fait, le contact, le contact humain, le contact direct reste quelque chose d'extrêmement, efficace, toujours. Hein, on le dit bien souvent. Et on peut avoir des problèmes, on peut avoir des questionnements, mais à partir du moment où on en parle, on trouvera les solutions et justement bien aller de l'avant pour cette qualité de l'air. Merci beaucoup de cet éclairage, Fabrice. Hein, on va penser fiches de données environnementales et sanitaires. On va penser mieux faire pour notre qualité de l'air parce que le but, c'est bien évidemment de réduire les émissions, donc d'éviter de venir encombrer nos poumons et également de surcharger, notre environnement pour que nous, on soit mieux. Il y a du mieux, on le dit, hein, même si l'OMS a baissé les seuils, évidemment, de vérification et des polluants dans l'air. Parce qu'on a eu une amélioration ces dernières années, ben on ne s'arrête pas là, on continue, on y fait attention. Fabrice, merci à vous de cet éclairage, merci également de toutes ces avancées. Je vous souhaite bon vent, bon air, bien évidemment. Et chers auditeurs, chères auditrices d'Element Air, à très bientôt.
Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.